Vous écoutez Quoi de neuf sur Radio Campus 106.6 FM, comme chaque mercredi entre 16h et 18h. On va retrouver, comme promis, une séquence consacrée à la Chine. Quoi de neuf en Chine, tout de suite avec Adèle Marché.
Bonjour à toutes et à tous. La rentrée a été politiquement mouvementée pour la Chine après un début d'année à lutter contre la propagation du Covid-19. Voici un retour sur les actualités de la Chine du mois de septembre. C'est une provocation des États-Unis pour la Chine, la venue d'un ministre américain à Taipei, capitale de Taïwan. L'Empire du Milieu a répondu par une vidéo d'une simulation d'un bombardement de l'île de Guam, territoire américain situé en mer des Philippines. La République populaire de Chine considère Taïwan comme son territoire. La visite du haut responsable va encourager les indépendantistes taïwanais selon Pékin. Le responsable en question est le sous-secrétaire d'État pour la croissance économique, l'énergie et l'environnement, Keith Craig. En 40 ans, c'est la première fois qu'un responsable américain d'un rang aussi élevé se rend sur l'île. La vidéo du 19 septembre diffusée sur le compte Weibo de l'armée de l'air met en scène des bombardiers H-6K à capacité nucléaire. Leur cible semble être la base Andersen sur l'île de Guam. C'est une base stratégique des États-Unis en cas de conflit dans la région Asie-Pacifique. La vidéo se nomme « Si la guerre éclate aujourd'hui, voici notre réponse ». Les tensions avec les États-Unis se déroulent aussi sur le sol américain. Menacées d'interdiction par les autorités américaines, les applications chinoises WeChat et TikTok ont connu un mois de septembre compliqué. L'application de messagerie WeChat d'abord reste autorisée aux États-Unis. Alors que Donald Trump avait annoncé l'interdiction de WeChat à partir du 20 septembre, une juge californienne a conclu de justesse que la décision était contraire à la Constitution américaine. C'est une association d'utilisateurs de l'application controversée qui a pointé du doigt que l'interdiction allait à l'encontre du Premier Amendement. Pour rappel, cet amendement interdit au Congrès des États-Unis d'adopter des lois limitant la liberté de religion et d'expression, la liberté de la presse ou le droit à s'assembler pacifiquement. Dans le monde, WeChat rassemble plus d'un milliard d'utilisateurs, dont environ 19 millions aux États-Unis. Pourquoi le département du commerce voulait-il donc bannir cette application ? Car la Maison-Blanche la considère comme une menace pour les intérêts nationaux. L'appli est éditée par la firme chinoise Tencent, l'une des plus grandes entreprises technologiques au monde, ce qui poserait un problème pour la sécurité américaine. Quel est donc l'avenir de TikTok ? L'appli de partage de vidéos n'a pas disparu non plus des réseaux sociaux, et ce grâce à un accord avec les sociétés Oracle et Walmart, approuvé par Donald Trump. L'accord se négocie entre les sociétés ByteDance, maison mère de TikTok, Oracle en passe de devenir le partenaire technologique aux États-Unis et Walmart le partenaire commercial. La nouvelle entité se nomme TikTok Global et n'est pas celle que le président américain imaginait. Lui qui voulait une vente totale de TikTok devra se contenter d'une société détenue à 80% par ByteDance, l'entreprise chinoise de nouvelles technologies. Cette appli comptabilise 100 millions d'utilisateurs sur le sol américain. TikTok était menacé d'interdiction de téléchargement, mais une décision de justice le 27 septembre a jugé cela contraire à la Constitution et au droit à la liberté d'expression. Les mésaventures de TikTok sont loin d'être finies, car le 12 novembre, l'application devrait être totalement interdite sur le sol américain. Sur ce point, le juge a refusé de suspendre l'interdiction totale. Ce n'est qu'un répit que les juges ont donné aux deux applications. Faisons une pause dans ces actualités politiques et commerciales et tournons-nous vers l'avenir de tous et de toutes, l'écologie. La Chine voudrait-elle devenir leader sur les questions environnementales ? C'est ce qu'elle laisse paraître en s'engageant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060. Par visioconférence, Xi Jinping a annoncé cette ambition lors de la 75e édition de l'Assemblée générale des Nations Unies. Aujourd'hui, l'Empire du Milieu est le pays le plus pollueur au monde car il est responsable d'un quart des émissions de CO2. Avant 2030, ces rejets devraient avoir atteint un pic. Les constructions de centrales à charbon ne cessent de s'enchaîner, tandis que le président de la République populaire parle de civilisation écologique et fait pression sur les responsables locaux à ce sujet. Retour sur les tensions diplomatiques. Les relations entre la Chine et l'Australie se sont tendues ce mois-ci, notamment au sujet des journalistes dans les deux pays. Au début du mois, Pékin a accusé Canberra d'avoir maltraité en juin dernier 4 journalistes basés en Australie. Avec pour prétexte un scandale d'espionnage, les autorités australiennes ont soumis ces journalistes à des interrogatoires et des perquisitions. Ces correspondants de médias étatiques travaillaient selon le ministère chinois des Affaires étrangères pour Chine Nouvelle, China Media Group et China News Service. Zhao Lijian, porte-parole de la diplomatie chinoise, a précisé que ces journalistes ont dû remettre leurs téléphones et ordinateurs ainsi que les tablettes tactiles de leurs enfants aux autorités australiennes. En Chine maintenant, les journalistes australiens sont également malmenés. La présentatrice australienne Cheng Lei, de la chaîne chinoise CGTN, a été placée en détention en août pour raisons de sécurité nationale. La Chine a demandé à ce que les journalistes étrangers obéissent aux lois chinoises après l'interrogatoire de deux journalistes australiens de la chaîne ABC et du Australian Financial Review. Ces correspondants ont quitté le pays pour regagner l'Australie après s'être cachés dans leur ambassade. Ils étaient poursuivis au nom de la sécurité nationale. L'origine des tensions entre les deux puissances remonte à quelques mois lorsque Canberra appelait à une enquête internationale sur l'origine de la Covid-19. La Chine considère cette demande comme hostile et motivée politiquement. C'est la fin de ce récap des actualités du mois de septembre. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une excellente journée sur Radio Campus Lille.
Voilà, et nous avons le grand plaisir d'accueillir Adèle en direct. Bonjour Adèle.
Bonjour René, bonjour à toutes et à tous.
Donc on va rappeler ton expérience, tes expériences multiples, on va dire, à Hong Kong.
Oui, je suis partie pendant un an en échange universitaire pour finir ma licence de lettres modernes à l'université Hong Seng.
Alors tu as eu deux, on va dire, événements majeurs. Un, c'était les manifestations, et deux, le Covid.
Oui, c'est vrai. Alors, les manifestations, elles ont débuté en juin 2019. Et en novembre, c'est là où il y a eu le pic dans les manifestations. C'est-à-dire qu'il y a deux universités qui ont été assiégées par la police. Et les manifestants et étudiants étaient à l'intérieur. Et à ce moment-là, la circulation dans tout Hong Kong a été bloquée. Et les tensions étaient au maximum. Et ensuite, il y a eu le Covid-19. Donc, depuis janvier à peu près, depuis fin janvier, c'est-à-dire depuis le Nouvel An chinois, les Hongkongais portent des masques. Et on le voit, ils ont eu raison parce qu'ils avaient peur du Covid-19 qui se propageait en Chine.
Donc, en France, on n'en est pas sorti. En Chine continentale, disons que l'ensemble de la Chine, il y a des villes comme Wuhan qui ont l'air de s'en sortir plutôt bien maintenant. Rien n'est complètement joué. Et là, je vois que pour aller en Chine, il faut avoir au moins 14 jours d'isolement, de surveillance, et puis peut-être encore 14 jours même selon les endroits. Donc, pour revenir ou pour partir en Chine, c'est de plus en plus compliqué. Donc, ton expérience, ta sensibilité, de Hong Kong fait que tu réfléchis, tu écris aussi sur cette situation, tu la vois évoluer. Donc, moi, je n'y suis pas, donc je te laisse la parole.
Merci René. Alors, je voulais revenir sur les 12 arrestations de manifestants, de militants hongkongais qui ont eu lieu il y a 5 semaines. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a eu une manifestation des familles de ces personnes, de ces 12 personnes hongkongaises arrêtées aujourd'hui. Je vous rappelle le contexte. Elles ont été arrêtées le 23 août. Ce sont 11 hommes et 11 hommes et une femme qui ont de 16 à 33 ans et qui sont accusés d'avoir franchi la frontière avec la Chine continentale illégalement. Parce qu'il faut rappeler que Hong Kong a une frontière avec la Chine continentale, même si Hong Kong fait officiellement partie de la Chine. Ils essayaient en fait de s'enfuir pour Taïwan parce qu'ils étaient accusés d'avoir participé aux manifestations. Et l'un d'eux a même été arrêté pour la loi, en rapport avec la loi sur la sécurité nationale. Donc la loi sur la sécurité nationale, ça punit les actes de sécession, de trahison, de subversion de la part des Hongkongais, et qui a été mise en vigueur le 1er juillet 2020. Ces militants pro-démocratie sont détenus en Chine, à Shenzhen, et ils sont poursuivis pour avoir commis des infractions pendant les manifestations. Et il y a une question qui se pose autour de ces manifestants, donc de ces personnes arrêtées, c'est que c'est leurs avocats. Et parce qu'ils ont eu des avocats commis d'office par les autorités de la Chine continentale, mais Hong Kong n'a pas eu accès à proposer des avocats. Ils n'ont pas pu proposer des avocats, ils n'ont pas pu choisir eux-mêmes leurs avocats. Lundi de la semaine dernière, les autorités hongkongaises ont pu avoir des contacts avec ces personnes détenues parce que auparavant, on savait pas où ils étaient et on savait pas ce qui leur arrivait. Donc le chef de la sécurité, le secrétaire de la sécurité à Hong Kong, John Lee, a assuré qu'ils étaient en bonne santé, mais que les autorités hongkongaises ne pouvaient pas encore leur rendre visite.
Voilà. Merci pour ce point d'actu. Alors, c'est vrai que Hong Kong avait une échéance, a priori, dans le temps pour son intégration complète à la Chine. Voilà. Que pour l'instant, Hong Kong jouit d'un statut particulier, hein, d'une certaine autonomie encore, malgré les manifestations. On peut dire qu'il y a des règles différentes encore maintenant. Et que les manifestations importantes qui ont eu lieu ont sans doute amené le gouvernement chinois, d'une manière globale, puisque Hong Kong fait partie de la Chine, qu'on le veuille ou non, à peut-être anticiper certaines étapes qui amèneront à une relative homogénéisation de Hong Kong intégrée à la Chine.
Oui, parce que cette loi sur la sécurité nationale qui est passée pendant l'été, elle devait être passée par le Parlement hongkongais. Sauf que les autorités chinoises ont trouvé que le Parlement tardait trop. Et pour faire une comparaison, Macao, qui est aussi une région administrative spéciale, a déjà passé cette loi sur la sécurité nationale. Et donc, on attendait que Hong Kong la passe aussi, mais elle ne passait pas parce qu'il y avait une opposition forte de la part de la population.
C'est vrai qu'à Macao, au niveau de la population, ça ne semble pas trop poser de problème.
Non, ils se sont plutôt bien assimilés à la Chine continentale, parce que Macao, ça a été une colonie portugaise jusqu'en 1999. Et elle est connue, Macao est une région administrative spéciale connue pour ses casinos, donc qui engrangent beaucoup d'argent. Et ce serait la raison pour laquelle ils sont plus enclins à s'associer à la Chine, à s'assimiler.
C'est vrai qu'Hong Kong avait aussi pas mal de moyens économiques. C'était quand même une ville riche au départ. Enfin, on peut dire que une grande part de l'économie de cette zone-là passait ou transitait par Hong Kong, d'une certaine manière. J'espère que Hong Kong gardera une capacité à maintenir son niveau actuel de vie. Peut-être trouver aussi quelques solutions au problème de logement. C'est pas facile à Hong Kong, tu l'as vécu ça ?
Oui, en fait, il y a très peu d'espace à Hong Kong. Et on voit souvent Hong Kong comme une ville avec des hauts gratte-ciels, etc. Et il y a des quartiers où la population elle est très, très dense, notamment dans le quartier de Mong Kok, qui est un quartier populaire sur la partie continentale de Hong Kong. Et les appartements sont très petits et c'est difficile d'avoir des logements sociaux. Les gens attendent très longtemps pour avoir des logements sociaux. C'est pas facile et c'est une grosse dépense pour les ménages hongkongais.
Donc voilà, chaque pays a son revers de médaille, on va dire ça comme ça. C'est pas facile de changer de statut aussi.
Oui, c'est sûr. C'est moins accepté par la population jeune, je dirais, et plus accepté par la population de 40 ans à peu près.
Alors, on peut imaginer que les personnes de 40 ans sont déjà établies dans la vie et ont su tirer profit de la situation économique et du statut privilégié de Hong Kong, alors que les jeunes sont peut-être plus influencés par des cultures occidentales et des informations et des concepts de vie très différents.
Oui, parce que comme Hong Kong était une colonie britannique auparavant, ça fait en sorte que les jeunes hongkongais sont baignés et dans la culture occidentale et dans la culture chinoise. Donc, ils sont influencés par la culture occidentale et notamment à l'école où ils apprennent l'anglais dès le plus jeune âge. Et ils ont aussi des cours où ils sont invités à réfléchir, à débattre sur des questions de société. Et ça, c'est un cours qui est très critiqué par la Chine continentale parce que les autorités accusent ce cours spécifiquement, qui est dispensé dans les écoles publiques, de pervertir, entre guillemets, oui, de faire en sorte que les Hongkongais, les jeunes Hongkongais, soient plus enclins au système démocratique.
C'est vrai qu'on peut aussi s'interroger sur des sous-marins éventuels des États-Unis. Dans les combats économiques actuels, on peut imaginer qu'il y a aussi des enjeux.
Oui, mais les Hongkongais, les manifestants hongkongais revendiquent pour beaucoup leur indépendance justement des puissances occidentales. Mmh. Parce que quand on s'intéresse à Hong Kong, aux manifestations qu'il y a eu, on a bien vu qu'il y avait une influence des démocraties américaines, britanniques, etc. Mais la plupart des manifestants, en fait, se revendiquent, enfin, veulent créer leur propre système et non copier les démocraties occidentales.
Voilà, ben, on verra le développement donc, de Hong Kong au fil du temps. J'espère qu'il y aura un compromis, un terrain d'entente qui permettra à chaque partie de vivre mieux ensemble et pourquoi pas de se réconcilier un jour. Merci Adèle pour ce témoignage.
Merci René.